Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Bonjour et bienvenue sur France Bleu. Sentez-vous ce parfum délicat, ce bonheur olfactif, cet arôme? Eh bien, c'est celui de toute l'équipe du Mag Loisir Week-end.
Ouais.
Et on est aux anges, tout simplement la joie de vous retrouver, de passer un bon moment, plein d'esprit, de bonne humeur en votre compagnie. Ça nous permet d'oublier un temps le prélèvement à la source et le chambardement que ça va générer. Hein. Oui. Il y a de belles découvertes à faire durant les 30 minutes du Mag Loisir dimanche, totalement exonéré d'impôts. On parlera sport avec Vanessa Lambert.
Bonjour.
Cinéma avec Ségolène Aluni.
Salut Arnold.
Pour la télé, ce sera Patrice Gascoigne.
Bonjour à tous.
La lecture est assurée par Frédéric Le Ternier.
Bonjour tout le monde.
Oh, c'est toujours sur vous que ça tombe, c'est pas de chance. Hein. Et pour la musique, vous retrouverez Éric Bastien.
Bonjour.
Comme c'est dimanche, on a choisi de placer l'actu sport en fin d'émission pour être au plus proche de la sieste. Parce que vous allez nous parler de curling, Vanessa Lambert.
Ah mais il va falloir changer un petit peu les idées reçues sur le curling. C'est physique, c'est un sport qui date du 16e siècle. On se moque mais on ne connaît pas. Alors tous au curling, à la fin de l'émission.
Voilà, on verra ça. Avant cela, tenez bon, Patrice Gascoigne vous a sélectionné un excellent programme dominical plein de joie, de détente et de légèreté. 1940, les secrets de l'armistice.
Eh bien oui, effectivement, je vais vous parler de cette page sombre de l'histoire de France avec un formidable documentaire sur France 5 à regarder mais aussi à écouter.
M, 3 cafés gourmands, Marc Lavoine ou encore Laurent Voulzy ont été conviés à participer à l'actu musique d'Éric Bastien, meilleure alternative si vous êtes refoulé aux soirées de Monsieur l'Ambassadeur. Vos Ferrero à vous, Éric Bastien, eh bien c'est la musique. Et ça ne fait pas mal aux dents, bon, aux oreilles parfois, mais...
Non, vous découvrez le duo Calvin Harris et Ragan Bonneman qui est très sympa pour les oreilles.
Voilà, et alors quand on ne sait pas quoi choisir. Faire Amstram-Gram, c'est sympa quand il s'agit de décisions pas très importantes, comme les études de vos enfants ou le choix d'un avocat pour divorcer. En revanche, quand il s'agit de choisir un film à aller voir au cinéma, pas de place au hasard. Il y a les conseils de Ségolène Aluni.
Et mercredi prochain sort Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à part ce film? J'ai une sélection pour vous.
Mais nous débuterons ce Mag Loisir dimanche par le conseil lecture de Frédéric Le Ternier. Dans quelques secondes, vous découvrirez quels romans ont été les plus lus l'année dernière. Une étude, réalisée par Je cale mon armoire magazine.
Oh.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Je vous taquine, Frédéric Le Ternier, mais non, pas du tout, évidemment. Chaque année, le journal Le Figaro publie un classement qui est assez attendu.
Oui, ils ont instauré cette tradition depuis 2005, révéler au public le nom des 10 auteurs français qui ont le plus vendu lors de l'année écoulée. C'est simple, ce classement tient compte des ventes en grand format et en format de poche et se concentre uniquement sur les sorties de caisse, c'est-à-dire les livres qui ont été vraiment et réellement achetés. Donc le résultat, il n'est pas discutable, il est sans appel. C'est une photo, en fait, de ce qui se vend en France. Il y a eu 5000 points de vente en France qui ont communiqué leurs chiffres. Bonne nouvelle, les ventes de ces 10 mousquetaires ont augmenté de 3% en 2018. Ça fait plaisir, on lit de plus en plus. Et puis on apprend une autre chose, c'est qu'à U10, ils représentent, rendez-vous compte, près du quart des ventes et du chiffre d'affaires de la fiction française de l'édition. C'est vertigineux. Et on le découvre, c'est souvent très très loin des livres dont on parle le plus souvent dans les médias. Donc on a, ça y est, le nom de l'écrivain préféré des Français, sauce 2018.
Alors c'est qui?
Roulement de tambour. Non, je plaisante. Aucun suspense, c'est encore et toujours l'indétrônable Guillaume Musso. Et oui, c'est lui qui a la médaille d'or depuis 2011. Il est très, mais alors très, très loin devant les autres. 1 617 000 exemplaires. Bam! La jeune fille et la nuit, son livre publié en avril a d'ailleurs été le best-seller de l'été. Selon vous, qui est à la seconde place?
Marc.
Michel Bussy.
Ah oui, vous avez raison, Arnold, comme toujours, j'ai envie de dire. Michel Bussy, c'est notre auteur de polar qui vit en Normandie. Il est toujours prof de géo à Rouen. Il est bel et bien là, donc en seconde position. Il est devenu incontournable et a écoulé 975 800 livres avec une grosse part pour son dernier. On l'a trouvé plutôt joli. Un outsider revient pour la médaille de bronze, c'est Joël Dicker. Il était sorti du classement ces dernières années. Il revient pour deux raisons. Le succès de La disparition de Stéphanie Mailer et l'adaptation télé de La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui a relancé ce titre et donc il s'est revendu comme des petits pains. En tout, il aura vendu 894 400 livres cette année.
Alors ça c'est pour le podium, mais j'ai envie de citer Patrick Juvet, Frédéric Le Ternier, mais où sont les femmes?
Où sont les femmes? Alors un peu derrière malheureusement, mais rassurez-vous, c'est une auteure qui arrive à la quatrième place, Aurélie Valogne, auteure d'Au petit bonheur la chance entre autres. Elle écrit des romans sur le ton de la comédie, elle dépeint des problèmes de famille contemporaine. La cinquième même place et il doit faire un petit peu la mousse celui-ci. C'est Marc Lévy qui a pourtant quand même cartonné avec Une fille comme elle, sortie chez Robert Laffont en mai, et la dernière des Stanfield, sortie en poche. Ensuite, c'est la blogueuse Virginie Grimaldi, grâce notamment à Il est grand temps de rallumer les étoiles, un titre quand même emprunté à Apollinaire, hein, oui. Bon, on lui dit bravo, car elle a osé se lancer dans le métier tardivement, bien lui en a pris.
Mais Frédéric Le Ternier, je vois que Pierre Lemaître, lui, il n'est pas dans le classement.
Mais tout juste, Arnold, vous arrivez à point nommé, c'est pile là qu'il se trouve. Pierre Lemaître, le Goncourt 2013, est en 7e position, avec notamment Couleur de l'incendie, sorti en janvier dernier, le second volet de la trilogie Au revoir là-haut. Le 8e qu'on n'oublie pas, c'est Raphaël Giordano, qui était déjà là l'année dernière et qui est un véritable phénomène d'édition. Ex-publicitaire, elle a trouvé le succès avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. D'ailleurs, avis aux amateurs, elle vient de sortir un nouveau roman qui s'intitule Cupidon a des ailes en carton.
Alors très bien, et qui referme la marche ?
Françoise Bourdin, qui a toujours été présente dans le top 10 et qui a convaincu 592 400 lecteurs. Je fais un petit peu Pierre Bellemare quand je...
Ah non, du tout.
592 400 lecteurs, notamment avec son dernier qui se passe dans un parc animalier dans le Jura, ça s'appelle Grande Paradiso. Et à la dernière place, Franck Tilliez, célèbre auteur de Polar qui ne démérite pas.
Bon alors, mais puisqu'on est entre nous,
allez-y.
On va le dire, oui. C'est toujours un peu les mêmes qui reviennent.
C'est toujours les mêmes, mais ça prouve qu'il fidélise, et ça c'est une très bonne chose, car forcément on va attendre le prochain de son auteur préféré impatiemment. D'ailleurs, parmi vous, est-ce que vous lisez les 10 auteurs que je viens de citer ? Vanessa Lambert, oui, lequel ?
Musso, Bussy, j'ai lu.
Pierre Lemaître.
Trigolène, Pierre Lemaître.
Françoise Bourdin, bien sûr.
Ah, vous avez raison, quel bon choix.
Charcot, c'est Franck Tilliez.
D'accord, et vous Arnold ?
Françoise Bourdin et Guillaume Musso.
Bravo, bien joué, vous avez l'un des 10 qui est dans le palmarès du Figaro de cette année.
Merci en tout cas pour ce point sur les romans les plus vendus en 2018, ce sont des ventes proportionnelles aux ventes d'armoires, de mobilier.
Mais non, arrêtez avec ça.
Ah, vous pouvez regarder les enquêtes. Oui, oui, il n'y a aucun problème. Ah, ça peut se lire très bien, puis ça se cale encore mieux.
Après.
C'est ça qui est.
Le Mag Loisirs Weekend sur France Bleu. Arnold Derek.
Allez, après la lecture, ça fait mal aux yeux et à la tête. On passe au cinéma avec Ségolène Aluny. Alors avec vous, Ségolène, on va faire un petit tour d'horizon des films qui sortent en salle mercredi prochain.
Oui, et à votre avis, qui va tout emporter sur son passage et faire péter le taux de fréquentation ?
Mais qu'est-ce qu'on a encore fait ?
Retour dans la famille Verneuil, Chantal Lobby et Christian Clavier, alias Claude et Marie, vont découvrir lors d'un dîner de famille que leur fille, toute mariée à des hommes de nationalités différentes, mon Dieu, quelle horreur, compte s'installer dans les pays d'origine de leur époux. Horreur, malheur, ils vont donc tout faire pour retenir leur progéniture. Objectif, leur faire de nouveau aimer la France.
Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude ?
Rien, j'en sais rien.
On va toutes se voir à l'accouchement de Laure.
Ah mais Laure n'accouche pas en Inde.
Demain, je partirai après.
Poussez, 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 allez, poussez.
Il est noir comme un Sénégalais.
C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein ?
Voilà, on retrouve les mêmes acteurs que dans le premier. En même temps, difficile de refuser une suite quand on connaît le très très juteux succès du premier opus sorti en 2014. 156 millions de recettes pour seulement 12 millions d'euros de budget. Ah oui. Autant vous dire que le cachet a dû être sympa sur le deuxième.
Pour la relance, je vous la fais à la Christian Clavier. Mais même enfin que voir au cinéma, qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu ?
C'est une excellente question, Arnold. Mais oui, comme il risque d'écraser les autres sorties, j'aimerais quand même donner leur chance à deux autres films qui valent le détour. Évidemment, il y a Minuscule 2, l'excellente animation dont je vous ai parlé hier, un film France Bleu sur une adorable colonie d'insectes, tout en images de synthèse et en onomatopée.
Michel Leb ! Michel Leb !
Voilà, Minuscule 2, les mandibules du bout du monde, un film France Bleu à voir en salle la semaine prochaine. Et puis, il y a une curiosité dont je voulais vous parler. Imaginez que tous vos rêves peuvent devenir réalité.
Wow.
Que seriez-vous prêt à faire pour qu'ils se réalisent ? Ça, c'est le postulat de départ d'un film italien intitulé The Place. Un film qui ne se déroule que dans un seul endroit. C'est un huis clos. Pendant 1h45, nous restons à la même table d'un restaurant, un resto appelé The Place, avec un homme mystérieux, assis tous les jours à la même table. Il y reçoit des inconnus qui viennent lui faire part de leurs désirs les plus fous. Il y a par exemple une vieille dame qui lui demande de guérir son mari qui est sur le point de mourir, un homme patibulaire qui voudrait passer une nuit avec le top modèle de son calendrier Playboy, un aveugle qui veut retrouver la vue, voilà, c'est très très disparate. Et il se confie parce que l'homme assis en face d'eux a le pouvoir de réaliser leurs rêves. Sauf qu'en contrepartie, l'homme leur demande d'accomplir un acte et pas des moindres. Par exemple, la vieille dame a pour mission de faire exploser une bombe dans un lieu public. Ah. Alors qu'une bonne sœur qui souhaite retrouver la foi en Dieu doit tomber enceinte pour ce faire. Alors voilà, ça peut être problématique. Évidemment, au début, ils refusent tous ce qu'on leur demande de faire. Finalement, ils reviennent voir cet homme mystérieux. Ils se ravisent échange d'avis. Alors on se demande, mais qui est cet homme? Est-ce Dieu? Le diable? Mais en fait, c'est pas le vrai sujet du film, ça va au-delà de ça. The Place sonde l'âme humaine et pose cette question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour servir nos propres intérêts? C'est fascinant, c'est très bien écrit, franchement ça vaut le détour, et ça change des grosses comédies, surtout si les retrouvailles familiales, c'est pas votre fort.
Ouais. C'est Eric-Emmanuel Schmidt votre truc hein, quand même. Hein. The Place, jamais The Place. Entendu parler, jamais.
Non, c'est pas sorti encore.
Ah bah voilà. Ouais, ça va sortir dans une demi-salle en France.
C'est pas vrai.
Mais vous nous le recommandez, donc on écoutera. Oui, ça a l'air bien, effectivement, ça a été fait 9-10 fois, mais ça a l'air bien.
C'est vrai,
ça a été fait 9-10 fois.
Paolo Genovese, c'est à voir mercredi, en tout cas, puis on n'oublie pas non plus la sortie de Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde, ça c'est à aller voir en famille, c'est un film France Bleu. On va se retrouver dans un très court instant. Vous restez avec nous pour l'actu musique d'Éric Bastien. Patrice Gascoigne, vous nous avez dégoté encore un très beau documentaire, cette fois consacré à l'armistice 1940, et avec vous, Vanessa Lambert, on s'intéressera.
Ça vous fait rire. Hein.
Au curling. Allez, on va bien rigoler, restez avec nous. Et nous voilà de retour pour la suite du Magloisir dimanche avec tous nos camarades. Nous avons parlé de cinéma, nous avons également parlé lecture. Il nous reste la musique avec Éric Bastien, la télé Patrice Gascoigne et le sport Vanessa Lambert. C'est parti.
France Bleu, le Magloisir week-end.
Oh, et c'est oui. Tombé sur vous, dites donc, Éric Bastien. Très bien. Bah, très bien. L'actu musique avec ce week-end un événement, c'est la sortie du nouvel album de M.
Tout le monde en parle. Il est sorti hier samedi, le nouvel album de M qui revient après 2 ans d'absence. Quand même, un disque de platine et une victoire de la musique pour son album L'Amo Mali, qu'on a déjà beaucoup écouté sur France Bleu. On le voit partout à la télévision et à la radio. On l'a écouté aussi chez nos confrères de France Inter dans une superbe chanson qui est dans son album qui s'appelle L'Autre Paradis et qu'il dédie au couple France Gall-Michel Berger. Il est assez intime sur cet album et on le retrouve même avec sa fille. L'album s'appelle Supercherie, le nouveau single L'Être Infini et sa fille s'appelle Billy.
Et c'est là que j'ai découvert, est-ce l'être infini qui me l'écrit? L'être infini que je relis.
Le nouveau M est dans les bacs depuis hier. Deux résidences parisiennes prévues au Cirque d'Hiver et la scène musicale à Boulogne. Les gros festivals et francopholies, ce sera au mois de juillet. De nombreux zéniths aux quatre coins de la France. Et puis l'Accor Hôtel Arena, c'est à Paris 16 et 17 décembre prochain. C'est déjà
complet.
Déjà complet pour décembre.
L'album est sorti hier, c'est déjà complet pour
décembre.
C'est
formidable. Gros
succès.
Nous parlions de Laurent Voulzy. Lui continue sa tournée et dans des lieux assez atypiques.
Oui, j'ai pas parlé de Laurent Voulzy parce qu'en fait, il a repris une chanson aussi de Laurent Voulzy, hein, pardonnez-moi, M, dans cet album.
Ah, je croyais que c'était Laurent Voulzy qui reprenait Laurent Voulzy.
Pourquoi pas?
C'était normal.
Du coup, Laurent Voulzy, lui, figurez-vous, vous l'avez dit, il chante dans des lieux atypiques. Est-ce que vous savez où?
Bah, à l'Arena quand même.
À l'Arena, d'accord, mais
des
non.
Églises.
Dans des églises, exactement. Depuis maintenant 2 ans, Laurent Voulzy a décidé d'organiser des concerts dans des églises française, c'est un gros carton. Alors il y reprend tous les tubes que l'on connaît de Laurent Voulzy, mais également le dernier album, Listen Love Tour. C'est prévu encore tout au long de cette année 2019, à partir de la fin janvier, donc dans quelques jours jusqu'au 28 avril, l'église de Saint-Sulpice, puis l'église de Saint-Eustache à Paris, les 21 et 22 mars.
C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part.
Alors une explication sur le son qui n'est pas tout à fait au top, hein, Éric Bastien.
Le son est véritablement enregistré dans une église, c'est un live dans une église, c'est un lieu divin pour des concerts d'exception avec une acoustique particulière. C'est le choix de Laurent Voulzy et ça cartonne.
Et ça coûte pas cher, non?
J'en sais rien, faudrait poser la question, mais
si
oui.
C'est une église, c'est la maison de Dieu, c'est gratuit, non?
Ah bah j'en sais rien moi, je connais pas Dieu hein, personnellement, je connais pas je suis désolé, je connais pas les clauses du contrat passé avec Dieu, en tout cas bon si vous...
Je contacte France Bleu Investigation si vous voulez pour me renseigner.
Voilà, on va avancer, je vous remercie. Giant, ça n'est pas le nom d'un hamburger, c'est un nouveau duo.
Oui c'est bon le Giant, hein, oui. Pour s'en faire un de ces quatre. Oui c'est le nom du nouveau duo, Calvin Harris et Ragan Bunman après One Kiss et
Pire lancement de l'année.
Mais si j'aime bien. Calvin Harris qui semble donc tenir un nouveau tube avec Giant. Écoutez, c'est un duo avec Ragan Bunman. La voix du rappeur, on l'entend bien.
Est-ce qu'on peut remettre Laurent Voulzy dans l'église?
Du coup, je connais pas le contrat de Ragan Bunman. Hein. Désolé, Vanessa Lambert, pour ce coup-là. Calvin Harris, Ragan Bunman, le nouveau duo. Et on sait d'ailleurs que Ragan Bunman est en train de peaufiner en secret un deuxième album. Des concerts sont déjà prévus en France pour cet été.
On va terminer avec le nouveau single de 3 Cafés Gourmands.
Alors, bien sûr, tout le monde connaît ça.
On veut du Claudie Musette à
Le groupe corésien qui a cartonné avec l'album À nos souvenirs, ça a été un succès énorme hein, cet été avec ce tube. Les voici de retour en deuxième place des ventes d'albums physiques, on en parlait hier, et un nouveau single.
Il y a autre chose évidemment, on vous doit tous, c'est évident. Les moments de scène et les psychoses, tous les problèmes, les petites choses.
Les hurlements, les coups de gueule, les coups de sang et les linceuls, les phrases répétées au micro et les gimmicks dans le studio. Les soutiens sur la tournée.
Et voilà, sur sa lancée, trois cafés gourmands qui possèdent un planning bien chargé. Pour Mylène, Sébastien et Jérémy, le trio, ils s'embarquent dans une grande tournée en France. Ils passeront par Strasbourg, Lyon, Dijon, Lille, Rennes, Montpellier, Marseille, Toulouse, Perpignan et même à Paris au printemps prochain.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir donné des nouvelles des trois cafés gourmands. Éric Bastien, merci pour cette Actu Musique. C'est vrai que ça marche très très bien. Ce qui marche très bien, c'est les gros yeux que nous fait Frédéric Le Ternier.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Voilà. Et puis ce petit ton gêné qu'on aime beaucoup. Allez, restez avec nous. Voici la télé de Patrice Gascoigne, tout de suite.
Le Mag Loisir Weekend sur France Bleu, Arnold Derek.
Alors hier, pour l'actu télé, Patrice Gascoigne, il y a eu un documentaire, il y en a un autre aujourd'hui, je vous rassure, c'est pas le même, parce que vous nous avez de nouveau déchiné, j'ai du mal avec ce mot, un documentaire historique, plutôt qu'hystérique, sur France 5.
Oui, parce qu'il lève un coin du voile sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France, la signature de l'armistice le 21 juin 1940. Alors, c'est un documentaire en deux parties qui sont diffusées ce dimanche et dimanche prochain en seconde partie de soirée sur France 5. Le doc s'appelle 1940, les secrets de l'armistice. Tout part du printemps 40, lorsque la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire.
C'est fini, les Allemands descendent.
La France est vaincue.
C'est un désastre complet.
Au bord du gouffre, la République se jette dans les bras de Pétain.
Déjà, Pétain était une célébrité, mais là, c'est devenu une sorte de dieu.
Le maréchal demande l'armistice en urgence.
L'ampleur de la défaite est telle que l'armistice s'imposait.
Ils sont prêts à tout admettre, y compris l'inacceptable.
C'est exactement ce que veut Hitler.
Il n'a pas complètement écrasé les autorités françaises, il les a domestiquées.
Extrait de 1940, les secrets de l'armistice à retrouver ce soir en seconde partie de soirée sur France 5. Alors, on y apprend ou on y révise plein de choses, mais dans ce documentaire, il y a une révélation assez étonnante, une révélation qui concerne la signature, presque au sens physique du terme de l'armistice, des enregistrements cachés. C'est une première technologique, en fait, hein, pour célébrer cet armistice, qui est une forme d'apothéose de son régime. Hitler fait secrètement enregistrer toutes les négociations qui ont lieu dans ce wagon posé dans la clairière de Reton, d'une petite commune de l'Oise. Je dis secrètement parce que les représentants du gouvernement français présents dans ce wagon ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Ces enregistrements secrets, c'est la première fois depuis le début de la Seconde Guerre mondiale qu'ils sont diffusés. Vous allez les entendre dans le doc sur France 5, c'est inédit. Alors imaginez, nous sommes dans ce wagon sur le lieu même où l'Allemagne avait dû signer, accepter cette défaite en 1918. L'heure de la revanche a sonné pour Hitler avec cet armistice que ses hommes ont préparé. Il est présent dans le fameux wagon et tout commence par une déclaration qui plante le décor.
Le général Kettel commence à lire une déclaration écrite par Hitler.
Au nom du Führer, j'ai à vous faire la déclaration suivante. C'est le 11 novembre 1918, dans ce même wagon, que commença ainsi le calvaire du peuple allemand. Tout ce qui peut être imposé à un peuple en déshonneur, en abaissement moral, en souffrance humaine et matérielle, prit son origine ici. La France est vaincue. Le gouvernement français a prié le gouvernement du Reich de lui faire connaître les conditions allemandes pour la conclusion d'un armistice.
Et oui, le but d'Hitler est bien sûr d'humilier un peu plus la France en lui faisant signer cet armistice. C'est la première fois que ce son passe à la radio depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça passe ce soir, entre autres, sur France 5. La découverte récente de cette copie des enregistrements a été achetée par un collectionneur français qui permet donc aujourd'hui de raconter de l'intérieur et pour la première fois le drame de cette signature de l'armistice. C'est à 22h40 sur France 5.
Merci beaucoup, Patrice Gascoigne. Alors ça, si c'est pas de l'inédit, vraiment...
Ah là, j'ai été le chercher très loin.
Bah, dans un train, quoi. Hein. C'est... Déjà qui n'est pas parti à l'heure en plus. Enfin bon, bref, on vous épargne les problèmes. Merci beaucoup pour l'actu télé. On passe au sport tout de suite.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Vanessa Lambert, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous intéressez au curling aujourd'hui? Vous êtes sûre que ça va?
Ça va très bien, Arnold. Je vous remercie. Oui, je voulais vous parler du curling dont on se moque souvent, qui a plutôt mauvaise presse. Les gens n'essayent même pas de se renseigner un tant soit peu. Et puis, il y a du boulot, il y a beaucoup d'idées reçues. Pendant le disque, Éric Bastien nous a parlé du curling. C'est quoi, Éric Bastien?
C'est pas le truc pour les majorettes, là, le curling bâton,
bien sûr.
Ça, c'est le twirling.
Ah, le twirling. Bah ouais, j'étais pas loin.
Vous êtes très très loin parce que c'est un sport de glace. Et j'ai mis mon nez dans la Fédération française des sports de glace pour tout savoir sur ce sport. D'autant plus qu'à partir de vendredi va se jouer la phase finale des championnats de France. C'est à Vaujany, en Isère, avec les 6 meilleures équipes qui se sont qualifiées. Alors, chez les hommes, il y a Rouen, Megève, Viry-Châtillon, les Contamines, c'est en Haute-Savoie, Albertville et Besançon. Et chez les femmes, 3 équipes, Valence, Viry-Châtillon et Saint-Gervais. Comme quoi, on ne fait pas du curling que à la neige, hein. Viry-Châtillon, Rouen, par exemple. On compte en France 350 licenciés, c'est pas beaucoup, mais c'est plus que le biathlon, par exemple. Et le biathlon, on en parle quand même beaucoup, beaucoup plus que le curling, vous êtes d'accord, hein. Alors, faut dire qu'on n'a pas de grands champions de curling, que l'équipe de France est absente des JO depuis 2010, et ça n'aide pas non plus.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y va pas aux JO, notre équipe de France de curling?
Eh ben, parce qu'il y a que 8 équipes qualifiées, donc c'est très difficile, le niveau est très élevé, mais la Fédé a bon espoir de voir une équipe de France en 2022, ou mieux en 2026. En tout cas, ils y travaillent. Mais revenons au sport, le curling. Un petit tour de table, c'est quoi le curling?
Bon, c'est une espèce de
balais, les balais.
On passe à serpillière devant un truc qui roule, c'est ça?
Voilà, les idées reçues, la serpillière, le balai.
On lance un fer à repasser, et il faut atteindre un rond.
En quelque sorte, c'est ça. Voilà. Le principe du curling, c'est de faire glisser une très grosse pierre sur une surface glacée pour lui permettre d'atteindre ou d'approcher le plus possible une cible. Et pour qu'elle s'en rapproche, il faut l'aider. On frotte la glace à l'aide des balais. Il y a donc un lanceur, 2 frotteurs. Les frotteurs vont en fait dynamiser la glace pour que la pierre glisse davantage. C'est une pierre qui pèse quand même 20 kilos. Déjà, il faut la lancer. Et la piste fait 42 mètres. Et quand les frotteurs balayent sur 42 mètres, c'est l'équivalent d'un sprint sur 100 mètres. C'est très physique.
Alors, qui sont les meilleurs dans cette discipline?
Les Norvégiens.
Ah, pas loin, pas loin. Alors, lors des derniers JO, chez les hommes, ce sont les Américains qui ont décroché la médaille d'or devant la Suède, donc on n'était pas très loin, et la Suisse. Et chez les femmes, victoire des Suédoises devant la Corée du Sud et le Japon. En fait, c'est le Canada et la Suède qui ont le plus beau palmarès, mais la France a décroché une médaille, une seule, en curling. Médaille de bronze, c'était pendant les JO de 1924.
Ah bah, faut se réveiller peut-être un peu alors.
On attend.
Est-ce que tout le monde peut faire du curling, Vanessa?
A priori, tout le monde, à tous les âges, vous-même, autour de la table, vous pouvez faire du curling. Alors, on peut pas le pratiquer.
Si,
pas envie. On peut pas le pratiquer partout. Hein. Il faut qu'il y ait une patinoire. C'est la base quand même. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas à contacter un club pour faire une initiation. Hein. Vous serez très très bien accueillis. C'est un sport très physique qui demande beaucoup de concentration. Mais si vous êtes bon, réfléchissez un petit peu. Comme il n'y a pas beaucoup de licenciés, eh ben, vous pouvez vite grimper les échelons. Et pourquoi pas vous retrouver en équipe nationale. Et pourquoi pas aller aux Jeux Olympiques.
Bah oui.
C'est ça qui est assez génial. Un sport où il n'y a pas beaucoup de monde dans l'élite, eh ben, on peut y arriver. Et une fois, on va lâcher les curly pour se mettre au curling.
On dit curling. Moi, j'étais persuadée qu'on disait curling.
Ah, ben ça, c'est les Américains. Le curling. Curling.
C'est nos origines outre-Atlantique. C'est bon, absolument.
Très
merci
antenne,
beaucoup, en tout cas, pour ce point sur le curling qui ne nous a pas du tout convaincus.
Il faut aller à Vaujany en Isère à partir de vendredi.
Voilà.
Et championnat de France.
Formidable. Voilà, on a pris les billets. Merci beaucoup, Vanessa Lambert.
France Bleu. Le Mag Loisir Week-end.
Et c'est ainsi que se termine ce Mag Loisir dimanche sur France Bleu. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On était ravis de passer cette petite demi-heure en votre compagnie.
Bah
Vanessa
oui.
Lambert, on vous retrouve demain pour On se dit tout dès 14h.
Avec vos confidences autour d'un thème. Et demain, vous nous direz quel enfant vous étiez. C'est très mignon.
Une heure avant, ce serait. Bah, c'était l'heure d'une heure en France.
Bah oui.
Ça, c'est de la présentation.
Non,
Denis Farou et vous-même, Frédéric Le Ternier, avec.
Oui, avec toutes les initiatives en France, les innovations, le patrimoine. Tout ce qui vous rend curieux et vous intéresse.
Ségolène Aluny, oui. Vous, c'est France Bleu Paris.
Ouais, c'est ça, on fait le tour d'Île-de-France tous les week-ends.
Tous les week-ends.
France Bleu Paris.
Et
tous
la semaine,
week-ends.
On se repose et on fait du curling.
Ouais, c'est ça.
Éric Bastien, on vous retrouve pour le Top France Bleu demain dès 20h.
Exactement, 20h, 22h, 2h pour mettre en avant vos fiertés régionales à travers le patrimoine, le terroir, le territoire, tout ça, quoi.
Quant à vous, Patrice Gascoigne, les chroniques télé tout au long de la semaine et puis plateau télé le samedi à 15h.
Eh oui, je cherche les programmes télé, patrimoine, terroir, tout ça, etc. Tous les samedis à 15h avec les meilleurs de l'actu télé.
Voilà, ça c'est une belle façon de se vendre, hein, y a pas de problème. Demain pour France Bleu Soir, c'est Annie Dupéret qui sera en compagnie de Laurent Petit-Guillaume pour un très très bel ouvrage. Annie Dupéret, et c'est peu connu, est une grande photographe. Elle a sorti un livre là-dessus, vraiment je vous le recommande.
Sur les poules, non?
Sur
les poules.
Voilà, on va laisser Ségolène Aluny, les médecins arrivent, merci. Allez, on vous embrasse, une très belle semaine et au week-end prochain pour le Mag Loisir.